à fleur de peau.
Histoire de la batterie, chapitre 2.
Da, cha, ba, da, ding, ling, ding, dong, gong, tchik, tchouf, tchouf, tchouf. Tom tom.
Dans les années 20, les tambours ont finalement échappé au diable et au bon Dieu, du moins en apparence, pour devenir l'obsession d'une ribambelle de candidats au concours Lépine, pittoresque bidouille, système D, bout de ficelle, voici venu le temps des bricoleurs et du délire technologique. L'avènement aussi de quelques inventions modestes qui allaient avoir de formidables conséquences et font aujourd'hui les gros chiffres d'affaires de compagnies prestigieuses. L'humble tapette à mouche va donner naissance aux balais, sans lesquels le génie de Joe Jones, de Shellyman, de Chico Hamilton, de Connie Kay, de Paul Motion, de Larry Bunker ou du grand Kenny Clark ne se fût sans doute pas aussi largement déployé. Du fin fond de l'oubli collectif, le jazz tire l'antique scabellum des Romains et abracadabra Miroska, me recevez-vous, le transforme en pédale Charleston pour la plus grande gloire de sa majesté le swing, le souffle primordial. Un petit chic qui sera le grand choc d'une décennie fiévreuse où l'on verra encore les tomes de Chick Webb et de Gene Krupa naître du tom-tom chinois et des tam-tams de Mother Africa. Paxinski, nous avons parlé tout à l'heure, enfin, j'ai évoqué le scabellum, c'est un beau mot, c'est un mot que j'aurais aimé inventer, alors je ne dirais pas non plus que c'est vous qui l'avez inventé, mais en tout cas c'est par vous que j'en ai entendu parler pour la première fois.
C'est un instrument un peu mystérieux, parce que c'est un puissant claquoir à soufflet composé de deux pièces en bois ou en métal. L'une reposait sur le sol, l'autre, reliée à la première à l'une de ses extrémités par une charnière, était attaché au pied du joueur de tibia double, c'est-à-dire l'olos double des Grecs, qui les faisait claquer fortement. Et c'est un instrument à percussion qui eut pour fonction de rythmer la danse et d'annoncer la fin des spectacles. On le retrouve jusque dans les fêtes impériales, et l'empereur Caligula s'en servait pour accompagner ses chants et ses danses. Alors c'est tout à fait extraordinaire de penser qu'un instrument de l'époque romaine, eh bien finalement, s'est retrouvé un peu en 1926, avec la création de cet instrument merveilleux qu'est la Charleston. La Charleston à Fleuret était à même le sol pratiquement, très très basse, et on attribue cette invention qu'on appelait à l'origine snowshoe, c'est-à-dire chaussures pour la neige, à Vic Burton, Kaiser Marshall, George Stafford ou Sonny Greer, même le batteur de Duke, qui évidemment, ils ont, l'un d'eux a eu l'idée donc, de trouver une tige et de la rehausser à hauteur des mains. Jusqu'à présent, nous faisions avec le tambour militaire. Les deux mains étaient prises. Et bien maintenant, on a eu l'idée de déplacer ce pam-tram à ce que nous avons fait tout à l'heure. Une même durée, mais sur du métal et pas sur de la peau. Et à ce moment-là, il s'est trouvé un phénomène extraordinaire dans l'histoire de la batterie, c'est que les deux mains, quand on jouait tambour militaire, étaient prisonnières de la caisse, tandis que maintenant, il y a une main qui va aller vers la Charleston avec, et ce qui est merveilleux, une main gauche libre. Et en même temps, avec la grosse caisse qui marque tous les temps. Alors, à ce moment-là, il y a une liberté extraordinaire. Alors ça, c'est agréable d'entendre le tempo fondamental de la vie. Voilà. Et la Charleston qui rentre. Et on joue le Shabada à main droite. Je fais rentrer la main gauche.
On va écouter un des premiers virtuoses de l'instrument, l'instrument étant en l'espèce cette double cymbale à coulisses, Charleston ou hi-hat, enfin elle a de nombreuses désignations, et c'est Walter Johnson, quelqu'un qui fut l'un des plus grands batteurs de Big Band, engagé pour cela chez Fletcher Anderson, et le morceau, c'est un de ceux dans lesquels il réussit les plus jolies choses, mais il faut bien y prêter attention, New King Porter Stomp. Thank you. Georges, redonnez-nous une petite idée de ce qu'on a pu entendre, ou du moins deviner, sous les baguettes du pionnier de la cymbale Charleston, Walter Johnson, compagnon de Fletcher Anderson dans New King Porter Stomp.
Le batteur doit être un accompagnateur. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui va se mettre devant et qui va commencer à faire des tas de choses. C'est quelqu'un qui est au service des autres. Quand Krupa est arrivé, il a donc créé toute l'histoire de la batterie du début, dans le sens qu'il a été le premier grand soliste de l'histoire de la batterie. Et au moment même où le batteur devient le grand soliste, il devient en quelque sorte le mégalomane. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, au moment où il prend sa place véritablement dans l'orchestre, veut absolument que les projecteurs soient centrés sur lui.
Alors, à la Nouvelle-Orléans, les batteurs donc ne disposaient pas encore de cymbales Charleston, et en fait, ils ne disposaient pas de ce qu'on appelle aujourd'hui des toms. Il existait le tom-tom chinois, tout petit tambour, qui était presque un gadget, un accessoire parmi d'autres au milieu des temple blocks. Et avec Gene Krupa, le tom, qu'on appelait encore tom-tom, mais enfin, va devenir roi, véritablement. Et ça va être une des caractéristiques de l'époque.
Et alors là, il y a une image merveilleuse que l'on voit dans cette méthode que j'ai sous les yeux, c'est la méthode de Gene Krupa, où on voit d'ailleurs des photos, où on voit ce batteur avec les cheveux gominés, un magnifique batteur posant hollywoodien.
Oui. C'était important d'être gominé pour lui parce qu'il fallait que la mèche tombe à un certain moment où les teenagers n'étaient pas contents. Alors pour que la mèche tombe et qu'elle reste sur le nez, il fallait évidemment avoir les cheveux gominés.
Il fallait travailler. En pensant également à la chose fondamentale du phrasé. Nous avions phrasé Nouvelle-Orléans. Eh bien, ce phrasé sur les woodblocks que j'ai fait sur le rim, c'est-à-dire le bord de caisse, on va le retrouver maintenant sur le tom bass. Le début de Sing Sing Sing. Et là, il y a tout un monde, parce que c'est le monde, j'allais presque dire, de ce qu'on trouvait chez Duke Ellington au Cotton Club avec Sonny Greer, qui faisait hurler les gens dans la salle quand il imitait les léopards, tout ça, avec toutes ces batteries prestigieuses, tout ça, c'était magnifique, où les gens venaient voir cet instrument spectaculaire, extraordinaire. Et là, tout à coup, nous avons cette jungle qui réapparaît, c'est-à-dire les sources africaines de tout ça, mais avec ce côté hollywoodien magnifique qu'on retrouve dans les films de l'époque. Voyez.
Il y a deux mondes, parce que chez Krupa, vous avez à la fois, bizarrement, paradoxalement, toute l'Afrique et tout le tambour militaire.
Tout à fait.
C'est un batteur, on ne dirait pas en français, on ne peut pas dire rudimentaire, car il est toujours rudimentaire. Rudimental, disent les Anglais, un batteur de rudiments. Et en même temps, il y a effectivement toutes ces sonorités de la jungle revues et corrigées dans les grands cabarets de Harlem. Hein.
Il fait partie de la lignée d'un certain nombre batteurs-leaders, dont Papa Jack Lane, à la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, a été l'un des pères. Il y a eu Ben Pollack, il y a eu bien d'autres batteurs-leaders, mais lui, il a été batteur-leader. Et vous vous souvenez peut-être de ces images, de ces orchestres, où on voit par exemple l'orchestre de Gene Krupa, les pupitres de ces orchestres, les saxophonistes, avaient un petit tambour en guise de pupitre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que chacun prenait un moment, n'est-ce pas, des petits accessoires, des woodblocks, des machins, et tout le monde jouait la percussion. Alors c'était tout un monde d'ailleurs qui aujourd'hui nous paraît tellement ancien, et en même temps ce qui est merveilleux c'est qu'il est extraordinairement présent par le fait de ce phrasé fondamental. Alors ça, c'est pom-pom-pom-pom sur tom bass, et qu'on entendait tout à l'heure sur le woodblock, et qu'on retrouvera plus tard chez Jack DeJohnette.
Alors Sing Sing Sing, c'était le morceau de bravoure du plus célèbre concert donné par l'orchestre de Benny Goodman avec Gene Krupa à la batterie, et d'un des plus célèbres concerts de l'histoire du jazz. C'était le 16 janvier 1938, et au Carnegie Hall de New York, s'il vous plaît, qui était encore à l'époque un temple de la musique classique. Il est même possible que ce soit la première fois que ceci est controversé, mais que des musiciens de jazz se soient produits dans ce lieu précis. Et avant d'entendre le début du solo de Krupa, nous entendrons ce même Krupa dans le premier morceau d'Anbizatwe pour ce qu'on appelle un break de batterie absolument extraordinaire. Ils étaient paralysés de peur, ces malheureux musiciens, et au bout d'un moment, Gene Krupa s'est dit, si on continue à jouer de façon raide comme ça, ça ne va pas être possible, et il a mis le feu aux poudres par une figure tout à fait invraisemblable que nous allons écouter d'abord, après quoi nous passerons à son intervention de Sing Sing Sing. Un nom que nous n'avons pas encore cité dans cette émission, c'est celui de Joe Jones, Jonathan Jones, J-O, qui a porté le jeu de Charleston à son plus haut point de perfection. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, avec Count Basie, et dès 1936, en petite formation, 1937 en big band. Et l'on pourrait en dire autant, je crois, du jeu de ballet, bien que là encore, il n'ait pas été... loin s'en faut, l'un des premiers utilisateurs de ces curieux objets. Alors les balais, curieuse chose, avec les premiers balais, on ne balayait pas.
Alors, ce qui est extrêmement curieux, oui, effectivement, avec les premiers balais, les balais, il faut bien dire ce qu'on appelait ça les fly killers. Le fly killer, c'est-à-dire le tueur de mouches, qui deviendra plus tard les jazz sticks ou cinco jazz sticks, c'est-à-dire des balais proprement dits, et ça date de 1912. Ça, ça peut être tout à fait étonnant, mais ça date de cette période. Ben Pollack, l'un des premiers à les jouer en enregistrement dans Memphis Blues, a gravé ça en décembre 1927. Il y a Vic Burton qui les joue en mai 28. Et puis, avec Red Nichols et Zutty Zuckerton, les emploie également. Mais effectivement, on peut dire que Joe Jones, puisque nous parlons de Joe Jones, a fait quelque chose de magnifique avec cela. Et il faut dire que le principe même des ballets est d'abord ce que nous avons fait tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose, finalement. Je ne fais parler que de la même chose, mais ça se présente différemment, voyez-vous. C'est-à-dire qu'on a entendu au début, c'est-à-dire le tambour militaire sur la caisse claire. Ensuite, on a entendu sur la Charleston, eh bien, ce même principe de durée, eh bien, on va le trouver à la main gauche au balai. Et le premier problème de quelqu'un qui joue les balais, c'est d'apprendre à installer un continuo dans le tempo, avec la main gauche. Alors, j'installe donc ce tempo à la main gauche, et je vais faire rentrer maintenant la main droite, de cette manière. Et ce principe-là est la base de tout travail de ballet. C'est-à-dire qu'un membre joue le temps fondamental, la main droite fait le shabada que nous faisions sur la Charleston, et la combinaison des sons fait qu'on entend quelque chose que nous ne pouvions pas vraiment réaliser jusqu'à présent, parce que le ballet fait un travail continuel, un son continu, ce qui est tout à fait formidable, et ce qui a été utilisé après par la suite par de très nombreux batteurs qui sont devenus des grands spécialistes de ballet, comme Koniquet, Ed Thigpen, Daniel Humer, ou bien d'autres.
Avec des possibilités, cela dit, de variation de la main gauche. Par exemple, ne glisser que sur le deuxième et le quatrième temps, c'est une formule que Joe Jones emploie assez souvent.
On le joue, là je voulais exécuter tempo lent, mais on joue évidemment dans un tempo un peu plus soutenu. Et quand on fait rentrer la Charleston, alors là, évidemment, on a toute une combinaison déjà d'un son. C'est ça qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est la réalisation d'un son. C'est-à-dire que c'est un son qui s'achemine vraiment vers un son qu'on utilise encore aujourd'hui et qui est la réalisation profonde de la frappe, du son et de la conjugaison de la frappe et du son qui va former la matière sonore de tout notre instrument. Les ballets obligent les autres musiciens de vous écouter. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se dit, mon Dieu, mais on est obligé de tendre l'oreille. On est obligé d'écouter, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et là, on entend cette espèce de pulsation. Il y a toujours, d'ailleurs, la grosse caisse qui est là. Parce que je l'ai joué sans grosse caisse tout à l'heure.
Il m'est joué à 2 cm
ouais,
de la peau.
À 2 cm, toute petite, n'est-ce pas ? Et on a deux.
Vous avez déjà souligné le rapport entre la batterie et la danse. Il est bien évident que la technique de ballet avec les frottés, les glissés, est sans doute la technique de batterie qui est la plus proche de celle des danseurs de claquettes. Et d'ailleurs, Joe Jones était un grand danseur de claquettes lui-même.
Tout à fait. Buddy Rich l'a été aussi. D'autres batteurs l'ont été. Et revendiquent beaucoup cet aspect, parce qu'ils revendiquent cet aspect fondamental de la danse. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la naissance du bop, au début des années 40, nous sommes là actuellement à la fin des années 30, toute musique était lié à la danse, c'est-à-dire au divertissement, au plaisir, au fait de faire vivre son corps et de faire vivre le corps des autres et des danseurs qui applaudissaient l'orchestre. C'est merveilleux, imaginez Chick Webb au Savoy Ballroom, où des salles immenses, les gens dansaient, l'orchestre sonnait et les gens applaudissaient qu'il était le meilleur orchestre. Il y avait deux orchestres qui faisaient concurrence, tout ça, il y avait une atmosphère. Et ce qui était merveilleux à cette époque, et pour le batteur, et bien entendu, c'est qu'en fait, il était l'âme de la danse. Le profond l'âme de la danse. C'est-à-dire que, un peu ce que Kenny Clarke disait, que la batterie, c'est le moteur de l'évolution du jazz. C'est-à-dire que cette pulsation fondamentale, qui était à la grosse caisse, qui passe à la Charleston, qui vient maintenant au ballet, c'est cette pulsation fondamentale qui faisait danser les gens. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque, bien sûr, l'histoire du jazz est liée au fait qu'on ne pouvait réussir dans la vie qu'en rapport à trois choses, n'est-ce pas ? On pouvait réussir en étant en rapport avec le gangstérisme, en étant en rapport avec le sport ou avec la musique. Et il faut bien dire que pratiquement tout le monde à l'époque disait que plus ou moins les musiciens étaient obligatoirement en rapport ou plus ou moins avec la mafia de l'époque, parce qu'il y avait toute une série de choses qui rentraient en ligne de compte, et je pense à toutes ces batteries extraordinaires, à tout ce monde prestigieux, voilà.
L'histoire de la batterie de jazz, dont vous venez de lire à fleur de peau le deuxième chapitre, vous était proposée par Georges Pagzinski et Alain Gerbert. Ils n'auraient rien pu faire sans l'appui logistique de Gilles Pézra, vos oreilles et même, pourrait-on dire, vos yeux dans cette affaire. Ce n'est pas rien, croyez-moi, il y fallait un homme lui-même versé dans les mystères de la peau d'âne, voire de chèvre angora, ni le précieux concours de Marie-Cécile Mazzoni qui ne manque jamais d'ajouter aux choses d'ici-bas la quatrième dimension sans quoi elle meurt sitôt qu'elle naisse. Le troisième chapitre, demain, sur la même chaîne à la même heure, sera consacré à l'émergence du bebop, de la polyrythmie et de l'afro-cubanisme. Bonsoir à tous.
Rendez-vous donc demain avec la batterie et Alain Gerbert à 20h sur France Culture.